Cours de critique par le Père Philippe à Saint-Joseph le 2 juin 1987.
La critique, on la terminera pas. Le chantier restera ouvert. Alors nous continuons. Ce passage de l'appréhension au jugement dit capital. Comprendre que c'est par le verbe que nous atteignons le nom. Et que grâce au verbe, l'appréhension peut être transformée dans le nom. Cette alchimie particulière. Le verbe. Pierre marche. Banal. Marche est en acte par rapport à Pierre. Pierre, c'est le nom qui est actué par la marche. Ceci est et existait, actue ceci. En fait, n'importe quelle phrase, si le verbe actue, il est donc ce qui détermine en premier lieu mon intelligence. L'intelligence est déterminée par l'acte, non pas par la puissance. Et je connais la puissance par l'acte. Donc c'est bien le verbe qui actue en premier lieu. Cette phrase de saint Thomas subitement prend une signification tout à fait particulière. Parce que jusque-là, ens, vous pensez ens, l'étant. C'est pas du tout l'étant, c'est ce qui est. Donc, primo cadit in intellectus ens, c'est est. Le verbe. Le verbe à l'état pur. Sa nudité absolue, c'est est. Ça, c'est impressionnant. Donc, l'intelligence, le nous, est touché en premier lieu par est. C'est ça qui a à celui-là. Donc, selon l'ordre génétique, je dis bien selon l'ordre génétique, ceci est premier. Et selon l'ordre de nature, nous verrons progressivement est dernier. Ou premier, si vous voulez. Selon l'ordre de nature. Le point de départ et le terme sont un au point de vue d'intelligence. C'est ça qu'il faut comprendre dans le jugement. Alors, on va essayer de comprendre ça, parce que ça, c'est capital. Que le verbe est actue mon intelligence. Je vous ai déjà dit, hein, c'est le jugement. Vie intellectuelle. Pas d'appréhension sans jugement. Donc, c'est bien dans le jugement que mon intelligence est actuée. Pas dans l'appréhension. C'est là toujours l'erreur. Hein, c'est qu'on croit que l'appréhension actue en premier lieu l'intelligence. Non. L'appréhension est un élément d'une analyse. Alors, c'est plus facile à comprendre. Et c'est pour ça que je dis que c'est l'appréhension. Et la scolastique a mis ça très en lumière. Et la scolastique, en faisant ça, m'a conduit vers l'ontologisme. Alors que quand je saisis dans la réalité que c'est le jugement d'existence qui est premier, je vois que c'est le verbe être qui actue l'intelligence. Vous voyez, la connaissance, quand je la regarde par le jugement, n'est pas premièrement une connaissance quantitative. Contrairement à tout ce que dit la scolastique. C'est pas premièrement une connaissance quantitative. Vous allez me dire en disant ça, je vais contre saint Thomas. Pas du tout. Pas du tout. Saint Thomas dit ça dans l'ordre de l'analyse, c'est évident. Mais pas du tout, profondément. Puisqu'il dit « primo catiti intellectus ens », il l'a dit 178 fois, avec des modulations. S'il l'a dit tellement de fois, ça prouve qu'il a voulu enfoncer les clous vis-à-vis du petit novice. Et en disant ça, saint Thomas montre bien que ce n'est pas une connaissance quantitative qui est première. Il montre que c'est ens, c'est ce qui est. Donc, ceci est. Ça, vous ne pouvez pas nier. C'est premier dans saint Thomas. C'est affirmé constamment. Donc, c'est bien le verbe être. Ce qui est exprimé par le verbe être. Qu'est-ce qui est exprimé par le verbe être? C'est que la réalité existe. Elle est. Peu importe ce qu'elle est. Elle est. L'intelligence cherche ce qui est. Et c'est ça qui l'intéresse. Elle ne cherche pas le possible. Ça, c'est les gens fatigués. Tandis que l'intelligence cherche ce qui est. Et directement. C'est ça qui l'intéresse. Le reste, c'est second. C'est pas le premier. Et est n'est pas saisie quantitativement. Puisque l'être comme tel n'est pas dans un genre. Or, est saisi quantitativement tout ce qui est dans un genre. Donc, être n'est pas saisi quantitativement, il est saisi intellectuellement. L'intelligence touche ce qui est. Et elle essaie de l'exprimer. Connaissance analogique, vous voyez, la connaissance analogique est première et elle est dernière. C'est évident, quand je dis ceci est, c'est très confus, mais c'est analogique, c'est pas quantitatif. C'est le toucher de l'intelligence. Et alors, l'intelligence, en saisissant l'acte d'être, ceci est, elle saisit donc d'abord l'acte, avant de saisir la substance. Voyez bien, tandis que dans l'analyse de ce qui est, je saisis d'abord la substance, puis après l'acte. Mais génétiquement, je saisis en premier lieu ce qui est en acte. Et ce qui est en acte, ce n'est pas la substance. C'est l'exercice même de la réalité. Par l'acte. L'acte se donne dans une détermination. Le to einein anthropo, cette fameuse phrase d'Aristote. Le to einein anthropo, l'être présent dans telle détermination me conduit au nom. Ceci. Qu'est-ce que c'est que ceci ? Ceci, c'est l'être à l'homme. C'est les deux. C'est extraordinaire, ça. Alors, vous comprenez comment je peux abstraire dans une analyse la détermination et je suis en face de l'appréhension. que ça, on peut tous saisir ça. Et c'est ça qui constitue l'acte même de la connaissance. Mon intelligence ne quitte pas le réel. Elle l'abstrait. Oui, l'appréhension est une abstraction. Et le jugement adhère au réel. C'est une adhésion associée. Ce ne sera plus une unité qui est donnée dans la subjectivité transcendantale qui fera l'unité. Alors, unir universel et singulier. Je prends tout de suite les deux grandes oppositions les plus grandes. Non-être et être. Voilà tout le mouvement dialectique. Parce que l'opposition la plus radicale, c'est non-être. L'universel et non-être, singulier. Et donc, on arrivera progressivement par le point de vue dialectique, c'est-à-dire le mouvement d'intelligence. Parce que la synthèse de l'être et du non-être, c'est le devenir. Le devenir de l'intelligence. Et la dialectique, c'est le devenir de l'intelligence qui unit l'être et le non-être. Qui unit vers le singulier. Je vous dis ça, c'est parce que je crois que c'est capital de comprendre ça. À la place de mettre l'être premier, on met la subjectivité transcendantale. Ce que fait Kant. Et alors on aboutit nécessairement à comprendre que toutes les oppositions sont résorbées par le devenir de l'intelligence. Le devenir de l'intelligence est capable de résorber toutes les oppositions. C'est ça la dialectique. L'âme de la dialectique, c'est de résorber toutes les oppositions par le devenir de l'intelligence, par la subjectivité transcendantale. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Parce que c'est intéressant de comprendre ce point capital, ce triangle fondamental. Le nom, le verbe, la détermination quantitative, la quantité présente dans le verbe, la quantité présente dans le nom. Là, c'est la quantité qui est présente dans les deux. L'appréhension est présente dans les deux. C'est le to einai anthropo et c'est le to anthropo, l'homme dans pierre. C'est l'être de l'homme. Et c'est l'homme en pierre. Puisque l'être de l'homme, c'est pierre. Seul le singulier existe. Donc, c'est pas seulement l'homme, c'est pierre. Bon, une fois que vous avez saisi ça, vous pouvez tout de suite comprendre à partir de là le caractère particulier du jugement. Ce n'est plus une assimilation, c'est une adhésion. Pourquoi ? Parce que c'est le verbe être qui commande tout. Or, je ne peux pas l'assimiler, mais je peux y adhérer. Et c'est pour ça que le premier moment du jugement, ou la première division du jugement, sera affirmation et négation. Dans l'affirmation, j'adhère. Dans la négation, je n'adhère pas. Ceci est, ceci n'est pas. Alors, vous voyez, c'est aussi là très intéressant de voir que affirmation et négation divisent de l'intérieur le jugement. Le jugement dit ceci est. Mais je peux dire aussi ceci n'est pas. Et ceci, c'est à l'intérieur même du jugement. Ce qui montre bien ce que nous avions déjà dit, que le jugement n'est pas simple, puisqu'il implique une division. Et si le jugement n'est pas simple, c'est parce qu'il y a une appréhension. Et par le fait même, puisque le jugement n'est pas simple, le jugement implique au-dedans de lui-même un certain fruit. Au niveau de la forme intentionnelle, qu'on va appeler l'énonciation. L'énonciation, c'est le fruit intérieur que je porte en moi quand je dis ceci est. Et c'est exprimé par la parole. Il y a un verbe, un concept de la seconde opération du la négation. Alors ça, c'est capital. Quand l'enfant apparaît, tout change. Eh bien, ici, vous voyez l'apparition de la négation. C'est quand même capital de savoir d'où vient la négation. Comment se fait-il que je suis capable de dire non ? C'est quand même intéressant. Au niveau de l'appréhension. L'appréhension est toujours positive. Tandis qu'au contraire, le jugement peut impliquer la négation. La négation, c'est l'intelligence qui la fabrique. Elle n'est pas dans la réalité. C'est donc un être de raison. Est un être de raison. Le non est un être de raison. Alors vous avez tout de suite ces deux êtres de raison. L'universel et la négation et le non. Et le non peut exister grâce à l'universel. Comment ça se fait que vous pouvez nier? Quand vous étiez gosse, vous niez. C'est quelquefois ce qui reste le plus. C'est le gosse qui reste quand vous niez. Il ne faut pas l'oublier. Quand vous niez en premier lieu, non. C'est idiot ce qu'on me demande. Ça, c'est le gosse. De mauvaise humeur. Alors il nie. Et il nie tout le temps. Vous niez grâce à l'universel. Le ceci se ramène au possible. Le ceci a une détermination du possible. C'est très curieux. Vous voyez, quand vous niez ceci n'est pas, qu'est-ce que vous faites? Le ceci va, en quelque sorte, être réduit à l'appréhension. Vous montrez, vous manifestez la capacité de ne pas exister dans le concept, dans la détermination. Le non, mais le non, il ne peut pas ne pas exister en tant qu'il exprime justement le ceci individuellement dans ce qu'il a de singulier. Tandis que quand vous dites ceci n'est pas, vous réduplique sur la détermination et l'acuité. C'est très étonnant, ça. La possibilité que j'ai de nier repose sur l'abstraction. C'est parce que je suis une intelligence qui abstrait que j'ai la possibilité de nier. Si vous aviez une intelligence qui serait uniquement le reflet à la manière dont parle Garotti sur l'intelligence marxiste. On ne peut plus nier. C'est un reflet des réalités. Et les réalités existent toujours. Donc on ne peut plus nier. Au sens absolu. Et la négation aboutir à affirmer le néant. Le néant, c'est un être de raison. C'est la négation absolue. Aplos, comme dit Aristote. La négation absolue. La négation absolue, c'est le néant. Parce qu'il y a des négations relatives. Possible d'être et de non-être en y se repliant sur elle-même, affirme sa primauté. Si l'intelligence n'était pas antérieure à ce qui est, elle ne pourrait pas le nier. Mais en même temps, en le niant, elle montre que l'être, ce qui est antérieur à elle. Là, il y a un jeu entre les deux qui est extraordinaire. Entre le point de vue de la reconnaissance de ce qui est et la capacité que j'ai de m'éloigner de ce qui est en disant ceci n'est pas. Parce que j'ai la capacité de nier, je peux errer. Alors apparaît tout de suite, avec affirmation et négation, le problème de la vérité et le problème de l'errance. Si je n'avais pas la capacité de produire le non-être, la capacité de produire le non, y aurait-il encore possibilité d'errer? Je serais impressionné uniquement par ce qui est. Et puis c'est tout. Il y aurait une intelligence reflet dans laquelle il n'y a pas d'erreur et pas de vérité. C'est donc là encore l'universel qui, permettant la négation, va être source de vérité et d'erreur. C'est parce que mon intelligence est capable de former l'universel que l'intelligence est capable de posséder la vérité, ou au contraire d'errer. C'est très curieux ces choses-là. Quand j'essaie de comprendre un peu, vous voyez, ça me fait descendre dans des quantités de choses que d'habitude j'affirme sans regarder le pourquoi. Là, on essaie de saisir. Mon intelligence, parce qu'elle forme l'universel, elle est capable d'énoncer dans le jugement. Or, la vérité, c'est l'adéquation de l'énonciation, ce que je suis capable de dire, avec la réalité. C'est ça la vérité. Ce que je vous dis maintenant est vrai. Et quand je dis ça, ce que je vous dis maintenant est vrai. Puis je dirais, j'espère que c'est vrai. Ça vous montre que ce que j'énonce est adéquat à la réalité. C'est ça la vérité. Ce que j'énonce est adéquat à la vérité. Est adéquat à la réalité. Est adéquat à ce qui existe. C'est donc grâce à l'universel qu'il y a formation en moi d'une énonciation. Et que cette formation d'énonciation me permet de me comparer au réel pour voir si c'est vrai. C'est très important, vous voyez, de voir comment tout ce qui se rattache à l'universel, intelligence qui abstrait. Et si vous vous souvenez, on a vu que l'universel ne pouvait exister que s'il y avait l'intellect agent. Et donc tout ça n'est possible que grâce à l'intellect agent. La vérité, c'est donc affirmer, c'est donc reconnaître que ce que je dis est conforme à la réalité. Mais ce que je dis peut très bien ne pas être conforme à la réalité. Et je serai dans l'errance. Quand ce que je dis n'est pas conforme à la réalité. C'est ça la vérité, l'énonciation par rapport au réel. Ou la non-adéquation de l'intelligence au réel. Vous voyez tout de suite le petit problème qui se pose là, et qui est très intéressant. Quand je dis que la vérité, cela, qu'est-ce que je fais? Je joue le rôle de regarder ce que je dis ou ce que je pense. Je me dédouble. Alors, quand on se dédouble, qu'est-ce qui se passe? C'est encore de la connaissance, c'est donc encore du nous. Puis-je me dédoubler de cette manière-là? Ce que je vous dis est vrai. Oui, on peut se dédoubler parce que justement, je peux m'installer dans la forme intentionnelle, distincte du réel. Et je peux m'installer dans la forme intentionnelle, distincte du réel, grâce à la formation de l'universel. S'il n'y avait pas l'universel, je ne pourrais pas m'installer dans la forme intentionnelle. J'aurais une connaissance intuitive. Il ne serait ni vrai ni fausse. Tandis que là, je peux prendre conscience de cette forme intentionnelle et dire que cette forme intentionnelle est adéquate au réel. Vous voyez que tout ça est possible grâce au jugement d'existence. Ce serait absolument impossible si je ne voyais pas le jugement d'existence et que je restais dans l'appréhension. Parce que si je restais dans l'appréhension, qu'est-ce qui me permet de dire que c'est adéquat au réel? Rien. Descartes. Descartes ne peut plus parler de vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Parce qu'il est dans la forme intentionnelle. Si vous vous placez dans la forme intentionnelle, donc, vous ne pouvez plus saisir l'adéquation avec le réel. C'est le grand problème de Descartes. Est-ce que cette idée que j'ai en moi, est-ce qu'elle signifie quelque chose de réel? Donc le rejoindre le réel. Je me suis coupé du réel. Dès l'idée, je ne peux plus le rejoindre. Il ne faut jamais se couper du réel. Il faut que le réel soit toujours présent pour que je puisse atteindre la vérité. Et le réel est présent dans le jugement d'existence. Donc voyez, tout ce qui est attaché à cette seconde opération d'intelligence, le jugement, tout le problème de la vérité, tout le problème de l'errance, tout le problème de la primauté de l'affirmation sur la négation, nous reviendrons là-dessus la fois prochaine. Le Seigneur.